enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Proverbe 12, 27. Un verset qui va beaucoup nous parler et peut-être, par la grâce de Dieu, nous remettre en question. Ne confondez pas jugement et condamnation. La Bible nous juge pour faire de nous des gens meilleurs. Elle ne nous juge pas pour nous condamner. Le jugement de la parole de Dieu donné dans la grâce de Jésus-Christ nous édifie et nous aide à opter pour un meilleur comportement, afin que dans nos choix quotidiens, nous sachions ce que nous devons faire et ne pas faire. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Il y a ici deux choses, la paresse et l'activité. La paresse qui est mise en opposition à l'activité, et l'activité qui est le remède de la paresse. La paresse est un sentiment, un réflexe naturel. Le corps n'aime pas travailler, le corps n'aime pas entreprendre, le corps n'aime pas prendre des risques. L'âme d'un homme, d'une femme, est ainsi faite. Depuis que le péché est entré dans le monde, depuis que la désobéissance est entrée dans l'humanité et que les individus sont coupés de la vision céleste, depuis ce temps-là, dans le jardin d'Éden, la nature de l'homme a changé. Et la nature de l'homme est devenue, par réflexe, paresseuse. Béni soit le Seigneur pour l'enthousiasme que nous pouvons avoir. Sachons que dans tout ce que nous voulons entreprendre, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui résiste et qui nous freinera. Je loue le Seigneur pour ceux qui sont pleins d'enthousiasme et qui aiment l'activité. Mais ce n'est pas parce que nous aimons l'activité que forcément nous sommes dans l'activité que Dieu a voulu. Et ce n'est pas parce que nous sommes en pleine activité que la paresse ne nous guette pas. Nous devons constamment lutter contre la vieille nature, contre la chair, contre l'âme qui, de par nature, depuis le jardin d'Éden, est inscrite dans un processus qui pousse l'homme à ne pas entreprendre. Le pire des démons qui puisse entraver la volonté de Dieu, c'est la paresse. Nous pouvons voir dans ce verset un enseignement décomposé en deux parties. D'un côté, il est question de paresse. De l'autre côté, il est question d'activité. Quelle est donc cette paresse et quelle est donc cette activité que Dieu approuve? Quelle est cette paresse que Dieu réprouve et quelle est cette activité que Dieu approuve? Alors, il nous est donné en exemple ici une image. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Quelle énigme! Qu'est-ce que cela veut dire? De quoi le Seigneur veut-il nous parler? Alors, je voudrais d'abord vous emmener sur une réflexion. Il y a trois possibilités qui se sont offertes à ce chasseur paresseux. Première chose, c'est que peut-être il n'est pas parti à la chasse. Peut-être n'a-t-il même pas considéré qu'il avait le potentiel de chasser un gibier. Il n'a pas cru dans ce potentiel. Il est resté dans l'inactivité et il n'est même pas parti à la chasse. Il y a donc ceux qui ne partent pas à la chasse. C'est une forme de paresse terrible. Ceux qui ne veulent pas se lever le matin, ceux qui n'entrevoient pas dans leur journée une possibilité de gain de production. Lorsque je parle de gain, il est question de gain par rapport à la vie, par rapport à ce que nous devons faire pour survivre, pour vivre et pour honorer la vie que Dieu nous a donnée. Nous ne sommes pas faits pour rester à rien faire. La preuve en est, c'est que dès que l'homme a été créé dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu une activité pour l'homme. Ceci se situe dans Genèse au chapitre 2 et au verset 15. Je veux lire avec vous cette vérité. L'Éternel Dieu prit l'homme, il le prit, et il le plaça dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous voulez que Dieu vous prenne et vous place dans un jardin où vous allez trouver l'activité que Dieu a voulu pour vous? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme n'a pas été créé pour ne rien faire. L'homme a été créé pour jouir de l'activité bénissante. Quand nous ne sommes plus dans l'activité, nous sommes en proie au tourment. Lorsque nous ne sommes plus en activité, Satan a la belle part pour nous faire souffrir. La Bible nous exhorte donc à chercher chaque jour l'activité que Dieu a prévue pour nous. Dieu aime celui qui travaille. Dieu aime celui qui reçoit son salaire à la sueur de son front. Nous sommes dans un pays qui, malheureusement, a inversé ce processus biblique en accordant trop d'assistance. Je ne fais aucune politique. Je dénonce une pratique dans notre pays. Trop d'assistance amène à la paresse. Et la paresse amène à des maux terribles. Le paresseux profite du travail des autres et le paresseux ne peut pas être béni. Je ne parle pas de celui qui ne peut pas. Je parle de celui qui ne veut pas ou qui a à sa disposition suffisamment de choses pour ne pas vouloir. C'est une ruse satanique. La ruse consiste à établir les choses afin que nous n'ayons plus besoin de produire nous-mêmes un travail. Je vous assure que même si Dieu vous a béni et que vous êtes riche et que vous avez hérité de fortune, Dieu vous invite à avoir une activité. Profitez donc de votre argent pour aider votre prochain et pour goûter ce miel extraordinaire qu'est l'activité. L'argent ne pourra jamais remplacer le don précieux de notre propre activité. Dieu a placé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que l'homme était quelque part et qu'il avait besoin d'être déplacé dans un endroit qui était le champ missionnaire pour lui. Nous voulons comprendre où est le champ de Dieu pour nous. Si nous sommes chrétiens, devons nous interroger, où est donc mon champ missionnaire? Où dois-je être placé pour pouvoir produire ce que Dieu a voulu dans l'activité de ma vie? Si je ne suis pas encore au Seigneur, je dois rechercher sa face et demander à Dieu de m'aider afin d'être productif dans ce que je fais. Dieu plaça donc l'homme dans le jardin et il le plaça dans un but. Cultiver et garder. Cultiver, cela veut dire défricher le terrain, planter, entretenir. Et garder, cela veut dire faire très attention que personne ne détruise notre travail. Je ne m'étendrai pas sur ces deux points, je reviendrai à notre histoire de chasseur qui ne rôtit même pas son gibier. Alors, soit il n'est pas parti à la chasse, soit deuxième possibilité, il a été incapable de tirer le gibier, il s'est présenté à la chasse, mais peut-être il n'avait pas d'armes ou il n'avait pas de munitions. Il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent en route, mais qui n'ont pas les moyens de ce qu'ils veulent entreprendre. Il y a beaucoup de gens sur terre qui se lèvent plein d'enthousiasme, mais qui n'ont pas les moyens d'entreprendre ce qu'il visionne. Je crois que si Dieu ne nous a pas donné les moyens, il y a deux possibilités. Ou c'est parce qu'il ne nous a pas appelés à faire ce que nous faisons, ou alors c'est parce que nous devons nous asseoir et attendre qu'il nous équipe. Je parle là aux chrétiens. Si vous entreprenez quelque chose et que vous êtes non équipé, que vous n'avez aucune puissance pour ce que vous faites, c'est qu'il n'y a que deux possibilités. Soit Dieu ne vous a pas appelé, il faut vous rendre à l'évidence et recadrer votre objectif. Soit Dieu vous a appelé, mais il ne vous a pas encore équipé parce qu'il ne vous trouve pas suffisamment humble. Donc il va falloir que vous vous asseyiez, que vous rentriez dans l'humilité et que vous attendiez que Dieu vous équipe. Soit le chasseur n'est pas parti, soit il est parti plein d'enthousiasme, mais sa bonne volonté n'est utile à personne parce qu'il n'est ni formé ni équipé. Soit, autre problème, il est bien parti à la chasse, il avait bien les munitions, il a bien tiré sur le gibier pour se nourrir, mais il a été trop paresseux pour aller ramasser le gibier et le ramener à la maison. Vous savez, ce qui compte dans la vie d'un homme, d'une femme, c'est d'aller au bout de ses objectifs, d'aller au bout de son travail, d'achever ce que nous sommes en train de faire. Et c'est peut-être précisément ce que ce verset du livre des Proverbes veut nous dire. Le paresseux ne rôtit pas. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu toutes les phases qui ont amené le chasseur à tirer le gibier, à le ramasser, mais il n'a pas été au bout de son objectif, il n'a pas été au bout de son travail. Et nous pouvons dire que celui qui commence quelque chose et qui ne le finit pas, qui manque de persévérance, va annuler tout ce qu'il a fait. Je voudrais donc maintenant penser que ce chasseur était un chasseur entraîné, qu'il est bien parti à la chasse, il avait bien ses munitions, il a bien abattu le gibier, il a faim, mais sa paresse et son manque de persévérance a annulé tout son travail. Combien de fois nous annulons ce que nous avons commencé parce que nous n'avons pas été jusqu'au bout? Alors peut-être c'est l'attitude de ce chasseur. Il n'a pas allumé le feu et il n'a pas préparé le gibier pour le cuire et le rôtir afin qu'il soit consommable. Nous avons ici la paresse dans son point le plus important. Le paresseux n'est pas forcément celui qui n'entreprend rien. Le vrai paresseux aux yeux de Dieu est celui qui n'achève pas. Si vous n'achevez pas ce que vous avez commencé, vous êtes au même rang que celui qui n'a jamais commencé. Le diable est très habile pour venir décourager ceux qui ont commencé d'entreprendre. Et je crois que le diable préfère même nous laisser entreprendre pour animer en nous un découragement et une paresse. Au moment où nous sommes en activité, cela l'intéresse plus que de nous décourager avant que nous ayons commencé. Le propre de ce chasseur ici, paresseux qui ne rôtit pas son gibier, est inscrit dans son manque de persévérance jusqu'au résultat. Persévérer, certains grands évangélistes l'ont dit, c'est percer un mur jusqu'à voir ce qu'il y a derrière ce mur. Percez et vous verrez. Je crois que nous devons nous remettre en question et considérer que il est un peu trop facile de dire que ce n'est pas Dieu qui nous a entraînés dans un travail ou une aventure, tout simplement parce qu'on n'a pas été au bout de l'aventure. C'est un peu facile de dire que le gibier n'est pas bon sous prétexte qu'on n'a pas voulu aller jusqu'à le cuire et à le rôtir. Ici, la description du chasseur est une description de folie. Il semblerait peut-être que ce chasseur ait pris le gibier et qu'il ait peut-être commencé à le manger cru et qu'il l'ait rejeté en disant « le gibier n'est pas bon ». Alors que le gibier était bon, il suffisait simplement de le cuire. Je crois que Dieu nous donne des images. Dieu aime parler par parabole. Imaginez, ce chasseur est parti dans la forêt affamé, il doit se nourrir et il doit nourrir sa famille. Béni soit le Seigneur pour le gibier qu'il donne et qui nous permet de manger et de vivre. Alors ce chasseur est parti, plein d'enthousiasme. Il a chassé, traqué, il a visé, il a tiré, il a abattu son gibier, il a atteint sa cible, il a touché de très près son miracle. Il a même été ramasser son miracle. Il l'a pris avec lui et en chemin, il a commencé à penser que ce gibier n'était pas bon ou peut-être qu'il était fatigué et il s'est arrêté en cours de route. Voilà ici la description du chrétien charnel. Voici ici la description de l'homme ou de la femme qui rate ce qu'il fait ou ce qu'elle fait tout simplement parce que il n'y a pas de suite dans l'opération. Celui qui ne suit pas ses idées, qui ne va pas jusqu'au bout de ses idées, n'est pas meilleur que celui qui n'a jamais commencé son idée. Je crois que nous devons comprendre que la parole de Dieu est incisive, tranchante, elle est la vérité. Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne veut pas nous décourager, Dieu ne veut pas nous démoraliser. Peut-être vous avez entrepris des choses et vous arrêtez en chemin. Vous vous arrêtez en chemin et vous voulez faire demi-tour. Mais Dieu vous dit que vous avez travaillé en vain si vous n'allez pas au bout de vos objectifs. Il faut persévérer. Croyez que ce n'est pas Satan qui vous a emmené en Éden. C'est Christ qui vous a amené dans une situation où vous vous sentez bien et où vous avez commencé d'entreprendre quelque chose. Ce n'est pas Satan qui vous a donné la vie sur terre, c'est Dieu. Et cette vie sur terre est un jardin d'Éden. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de croire, il suffit de cesser de douter de la providence de Dieu. J'aime ce mot, providence. La providence n'est pas un hasard. La providence, c'est ce que Dieu a pourvu dans les événements de nos vies. Cessons d'être incrédules, cessons de douter constamment de tout. Croyons que si Dieu nous a embarqués dans une aventure, cette aventure est bonne. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, en ce qui concerne le manque de persévérance qui annule les bons départs, les arrêts avant la finalité annulent les bons départs. Celui qui s'arrête juste avant le but annule tout ce qu'il a fait depuis qu'il a commencé. C'est pour ça qu'il y a tellement de naufrages. Des couples qui se séparent parce qu'ils n'ont pas été au bout. Ils n'ont pas su que lorsque nous sommes mariés, nous ne sommes plus seuls. Lorsque nous sommes mariés, nous respirons un coup sur deux. Nous pensons et nous prenons des décisions un coup sur deux parce que nous partageons. Parce que nous sommes appelés à construire, non plus avec nos propres idées, mais avec une diversité d'idées. Et c'est ce qui nous amène dans la gloire. Savoir partager avec les autres. Savoir écouter les autres. Savoir construire avec les autres. Alors, nous avons ici cette idée que ce chasseur dont nous n'oublierons peut-être jamais l'image, ce chasseur qui représente celui qui commence et qui ne finit jamais, celui qui commence avec un enthousiasme extraordinaire et qui n'arrive jamais au but. Je me méfie toujours des grandes paroles, des grands éclats de voix et de grand dynamisme, n'est-ce pas, dans les départs. Ce qui m'impressionne, ce n'est pas le dynamisme du départ, béni soit le Seigneur. Ce qui m'impressionne, c'est la puissance de l'honneur d'un homme, d'une femme qui va jusqu'au bout de ses résolutions. C'est cela qui est impressionnant pour Dieu. Alors, dans ce manque de persévérance, dans ces bons départs qui n'arrivent jamais au bout, nous pouvons voir par exemple, trois genres d'individus. Ceux qui se convertissent et qui ne poursuivent pas leur conversion. Ceux qui se convertissent dans l'enthousiasme. Alléluia, nous les voyons venir frapper, chanter, le Seigneur est bon, alléluia. L'enthousiasme, oh, et ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas discerner si cet enthousiasme est un feu de paille, si cet enthousiasme n'est pas dans l'origine satanique de la paresse et du manque de persévérance. Et ceux qui sont spirituels le voient et prient afin que ces mauvais sentiments soient détruits. Non pas l'enthousiasme qui est un bon sentiment, mais ce qu'il y a derrière l'enthousiasme, le cœur de l'homme. Alors, nous voyons par exemple dans Jacques 1, 23, 25, qu'il est écrit « Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, si quelqu'un est comme ce chasseur, part, il voit le gibier, il communique avec le gibier, il communique avec cet esprit de la chasse, il écoute la parole et il ne la met pas en pratique, il ne va pas faire rôtir son gibier. » Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, il est question ici non pas de la loi de Moïse, il est question de la loi de Christ, la loi de la grâce, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, l'activité, celui-là sera heureux dans son activité. L'activité est un trésor et le trésor de l'activité ne peut se trouver que dans la persévérance. La véritable activité aux yeux de Dieu est celle qui atteint ses objectifs et qui va au bout des choses. Celle qui ne baisse pas les bras et qui ne se laisse pas tenter par toutes les tentations qui pourraient le faire sortir du chemin. Il y a des gens qui se donnent à Christ, ils s'engagent sur une voie, mais en marchant sur cette voie, il y a tant de tentations dans les fossés. Et parfois les fossés ont un goût de délice, mais un fossé restera un fossé dans lequel il y a de la boue, dans lequel on ne peut pas cheminer. Alors certains marchent, ils ont écouté la parole, ils se sont réjouis, alléluia, et le fossé les a attirés. Ils ont oublié quelle était leur image aux yeux de la parole et ils se sont vautrés dans le fossé. Vous savez, le fossé est très près de la route. Le fossé n'est pas si loin que cela de la route. Ne croyez pas qu'il y ait une grande distance entre l'enfer et le paradis. Je vous dis qu'il y a une très faible distance entre l'enfer et le paradis. Nous sommes vite sur la route ou nous sommes vite en dehors de la route. Alors il y a ceux qui se convertissent et qui ne poursuivent pas. Il y a ceux qui se sanctifient et ne poursuivent pas. Galates 3, 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous finir maintenant par la chair? Quel drame! Dire « Oh Dieu a béni, oh Dieu a fait ça » et ensuite dire « Ce n'est pas Dieu ». Commencer une belle confession dans l'esprit et finir dans les confessions de la chair qui nous perdront. Et puis un autre exemple dans Luc 9, 62 qui est terrible celui-là. « Commencer à servir Dieu sans persévérer ». Jésus dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu ». Il y a des gens qui construisent leur propre cinéma et qui pensent servir Dieu, mais qui ne servent ni Dieu, ni les hommes, ni personne. Ils se servent eux et ils arrangent les choses. On ne peut pas mettre la main à la charrue et regarder ce qui se passe en arrière pour retourner en arrière. Votre vie est passée en Christ. Si Dieu a tourné la page, ne la tournez pas à votre tour. Nous n'avons pas le droit de tourner les pages nous-mêmes de notre vie, c'est Dieu qui le fait. Quand nous essayons de tourner les pages, nous déchirons ces pages. Et nous sommes dans la confusion. Alors, il y a dans ce verset, nous l'avons compris, la paresse vue au sens de Dieu, c'est ce qui n'est pas jusqu'au bout de notre consécration, de nos engagements. Ça, c'est la paresse vue selon Dieu. Le paresseux n'est pas simplement celui qui n'entreprend pas. Le paresseux pour Dieu est celui qui entreprend mais qui n'achève pas. Et nous avons cette autre partie du verset qui dit « Mais le précieux trésor, oh gloire à Dieu !» Gloire à Dieu pour le trésor d'un homme, c'est l'activité. Et nous avons vu que l'activité selon Jacques 1, 23 à 25 est une activité qui est produite par la persévérance de ce que Dieu nous a demandé et non pas de ce que nous nous sommes demandé nous-mêmes. Activité, activisme sont deux choses différentes. L'activité, c'est ce que l'on fait par conviction de cœur et par opportunité de Dieu. L'activisme est ce que nous produisons nous-mêmes par nos propres désirs. Lorsque nous faisons quelque chose, nous devons analyser si nous ne le faisons pas quelque part par production de nos propres désirs. Il y a ce que je veux, il y a ce que Dieu veut. Ses propres désirs, par ambition personnelle ou par recherche du confort. La volonté de Dieu ne vous amènera peut-être pas dans le confort, mais la volonté de Dieu vous amènera dans la paix et la sérénité. Et la volonté de Dieu vous délivrera. Alors nous voulons comprendre que le Seigneur a voulu que nous méditions particulièrement la première partie de ce verset et que nous comprenions que dans sa grâce, Dieu nous offre l'opportunité de l'activité. Le peuple de Dieu doit être un peuple qui entreprend, qui vit. La vie est inscrite dans l'activité. L'activité est le reflet de la vie. Ce que nous faisons, ce que nous entreprenons. La vie éternelle nous est offerte gratuitement. Les portes du royaume des cieux sont forcées désormais depuis Jean-Baptiste. Depuis Jésus, les portes du ciel sont ouvertes. Qui travaillera pour son Seigneur ? Qui marchera dans le champ missionnaire que Dieu a prévu ? Qui acceptera de travailler et de cultiver dans le jardin d'Éden ? Non point son jardin secret, non point le jardin que l'on sait fabriquer, mais le jardin que Dieu nous a donné.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.